Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. C'est l'ancien ministre du Budget, puis du Travail, le député UMP Éric Woerth, qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir Éric Woerth.
Bonsoir.
Bienvenue. Pour vous interroger à mes côtés, Didier Loras de l'AFP, Alain Auffray de Libération. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur le devenir de l'UMP, toujours sérieusement ébranlé et menacé par l'affaire Big Malion, qui n'en finit pas de rebondir. Mais pour commencer, les questions d'actualité avec un front social qui se durcit en France contre les réformes gouvernementales. Les intermittents multiplient les blocages et la grève s'éternise à la SNCF alors que le projet de réforme ferroviaire vient d'arriver à l'Assemblée. Le gouvernement, Éric Woerth, a raison de ne pas céder.
Oui, il a raison de ne pas céder. On peut discuter de la réforme, c'est sans fin. Il y avait deux entités, et au moment de la création de ces deux entités, c'est-à-dire grosso modo celui qui exploite les trains et puis celui qui gère les infrastructures, RFF et SNCF, la CGT avait déjà fait grève d'une façon très importante. Maintenant, ils font grève pour éviter que ces deux unités se regroupent à nouveau, comprennent au fond qui pourra. Mais on voit bien que c'est l'air d'être assez compliqué de gérer le réseau de cette façon-là, donc il fallait y mettre un peu d'ordre. Moi je conteste un certain nombre de choses, c'est compliqué, on va pas rentrer dans les détails techniques, non. C'est sûrement très très compliqué, mais en même temps je pense que je m'abstiendrai sur ce type de texte. Donc il faut absolument que le gouvernement résiste, et d'ailleurs cette grève est scandaleuse, enfin elle est inadmissible qu'on fasse grève un peu,
je Bruno dis pas le contraire. Bruno Le Maire parlait de grève politique, vous parlez de taliban du rail pour qualifier la CGT.
Taliban du rail, j'ai dit ça, oui, parce que d'abord il faut des termes forts, puisque la méthode est forte, ça veut dire des intégristes, c'est-à-dire des gens qui ne voient que leur propre avantage. Je ne crois pas du tout qu'ils défendent le service public, je pense qu'ils défendent leurs propres avantages. On est sur une catégorie de population qui travaille moins que les usagers et qui prend sa retraite plus tôt. Donc il y a une limite supplémentaire, c'est de ne pas ennuyer les usagers tous les matins, tous les soirs. On peut le faire une fois, on peut le faire un jour ou deux pour montrer, et puis changer après d'outils. Mais on n'a pas le droit, pendant aussi longtemps, de bloquer le service public. C'est vraiment indécent. C'est vraiment indécent.
On a vu la droite totalement divisée sur le sujet, entre Châtel qui a appelé le gouvernement à retirer le texte, Luc Châtel, un nouveau secrétaire général de l'UMP. On a entendu Xavier Bertrand qui soutient la fermeté du gouvernement. Ce soir, tout le monde est plutôt dans l'abstention. C'était quoi le risque d'apparaître comme soutien de la CGT?
Bon, d'abord, on n'a pas envie de soutenir la CGT dans ce combat qui est un mauvais combat, un combat d'un conservatisme absolu et un combat catégoriel. Donc c'est un très mauvais combat et je pense qu'ils perdent beaucoup en image là-dessus et beaucoup en crédibilité. Mais en dehors de cela, c'est une réforme qui, comme je l'ai dit, qui est probablement pas du tout optimum, mais en même temps qui a tendance à simplifier les choses. Alors il faut savoir si elle est eurocompatible, il faut savoir un certain nombre de choses, notamment si elle permet l'ouverture, parce qu'il y aura un moment donné l'ouverture du rail, c'est-à-dire qu'il y aura aussi un peu de compétition, ce qui n'est pas complètement idiot. Il faut bien qu'il y ait un peu de compétition.
Alors,
partout.
Pourquoi ne pas la voter, cette réforme?
Parce que je pense que le gouvernement est comme un canard sans tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il court dans tous les sens, sur tous les sujets, revient la plupart du temps sur ces sujets, et donc n'avons aucunement l'intention de lui faciliter la vie. En même temps que ce sont des réformes de cette nature, on peut s'abstenir. Vous savez, l'abstention d'une opposition dans un temps aussi difficile, aussi compliqué, aussi chahuté, est me semble-t-il, un message plutôt fort. Je remarque d'ailleurs que il y a une ministre chargée des transports, mais où est-elle? Peut-être sur un quai de gare abandonné, en attendant qu'un train arrive. Il y a une ministre, Madame Royal, elle est ministre des Transports. Elle est ministre des Transports quand même.
Qui vient de perdre son jeune frère, donc on peut peut-être comprendre que dans ces moments difficiles, elle ne soit pas présente dans un tel débat.
Je ne savais pas, je n'avais pas ce type d'information. Mais enfin, elle n'y était pas non plus la semaine dernière dans ce type de débat, comme elle n'est pas dans le débat nucléaire. Bon, mais s'il y a une affaire personnelle, évidemment, je la comprends. Mais en même temps, non, je ne le savais pas. Mais enfin, en même temps, le ministre des Transports, il doit être présent dans ce type de débat, et pas uniquement le secrétaire d'État.
Cuvillier n'était pas à la hauteur à l'Assemblée aujourd'hui.
Mais je dis pas ça. Je pense que c'est le problème du ministre et pas uniquement du secrétaire d'État. Enfin, quelle idée de mettre uniquement le secrétaire d'État devant les partenaires sociaux? À un moment donné, il y a un ministre, ou il est ministre des Transports, ou il l'est pas.
Alain Auffray.
Vous dites on s'abstient parce que ce gouvernement est un canard sans tête et qu'il n'y a pas de raison de le soutenir. Mais est-ce que c'est pas au contraire, ce serait pas au contraire au nom du civisme peut-être, ils sont là au pouvoir de toute manière depuis jusqu'à 2017. Est-ce que ce serait pas, puisque vous êtes fondamentalement pas en désaccord, on parlera peut-être des intermittents aussi après. Est-ce que ce serait pas une raison au contraire de plutôt envoyer des messages de soutien?
Non, je sais bien. Quand le Premier ministre répond aux questions d'actualité, il nous dit sans arrêt en parlant d'une seule voix. Enfin tout ça c'est très très gentil. Moi j'ai vécu 5 ans au gouvernement. 5 ans d'anti-sarkozisme absolu, de fermeture totale des socialistes, même pendant la crise. Donc il y a quand même des limites de nous donner des leçons sur ce sujet. Je pense que si une partie de l'UMP s'abstient, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans cette... C'est une petite musique, ça, au fond. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les aider à s'en sortir? Mais si c'est pour les aider, pour s'en sortir par de mauvaises mesures, dans de mauvaises conditions, avec de mauvais chefs... Je pense que ça fera une mauvaise politique. Et puis, une opposition, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais elle est aussi là pour s'opposer. Une opposition dans une démocratie, c'est un gage de démocratie. Nous sommes opposés, nous n'avons pas les mêmes conceptions des choses, nous n'avons pas la même vision de la France, nous partageons le même pacte républicain, évidemment, sur un certain nombre de points, et Dieu merci, c'est un socle commun. Mais enfin, mission par mission, politique par politique, absence de réforme par absence de réforme, on se dit que ça commence à bien faire et que ça commence à suffire. Il y a ce gouvernement aujourd'hui insupporte les Français. Il insupporte l'opposition aussi.
Didier Loras.
Alors, vous, au-delà de la seule question de l'abstention, sur les prises de parole de l'UMP, comme le soulignait ma consoeur il y a quelques minutes, il y a quand même une sensation un peu de discordance. Est-ce que c'est si difficile aujourd'hui pour l'UMP de se mettre d'accord, y compris sur des questions de fond, au-delà de la question du parti lui-même?
Bon, c'est très léger comme discordance. Ça porte sur un texte, à un moment donné. D'abord, on condamne tous la grève. On parlera de l'UMP. Il y a d'autres sujets dans l'UMP, mais c'est une discordance sur un texte. C'est même pas une discordance, personne ne votera pour. Donc il y a des gens qui sont opposés, il y a des gens qui, au fond, laissent sa chance, au fond, à cette réforme. En tout cas, il n'y a pas du tout de discordance sur l'attitude vis-à-vis de la grève et des grévistes. On considère que c'est une attitude inadmissible et irresponsable de la part de Sud et de la part de la CGT. Je ne mets pas en cause tous les cheminots, c'est 14% des cheminots, donc il y a plein de gens responsables. Ouais. La question n'est pas celle-là. Mais là, il y a une irresponsabilité totale, et nous le regrettons infiniment, et nous le disons.
Sur le conflit des intermittents, là encore, vous comprenez la fermeté du gouvernement, même si bien le gouvernement serait prêt à lâcher un peu du lest.
Le gouvernement va reculer. Il va être fort sur la SNCF, mais il va reculer d'une manière ou d'une autre sur les intermittents. D'abord, je pense qu'il signera l'accord interprofessionnel, l'accord sur l'assurance chômage, parce que dans lequel se trouve l'évolution d'un texte sur les intermittents, plafonnant les indemnités et puis créant un différé de versement. Donc c'est pas quelque chose d'énorme, hein, c'est une toute petite réforme du régime des intermittents. Le gouvernement ne peut pas faire autrement que de signer. Il a soutenu cet accord et il a été signé par les partenaires sociaux. S'il ne le fait pas, il est cette fois-ci en discordance et en désaccord avec tout ce qu'il a dit jusqu'à présent. Mais il trouvera un moyen, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qu'il fera. Il faut demander au ministre concerné. Je ne sais pas ce qu'il fera. Enfin, vous verrez, il sortira de son chapeau quelque chose pour essayer d'adoucir la pilule amère, si tant est que cette pilule soit amère. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas de régime d'intermittent du spectacle dans pas mal de pays. Ça ne veut pas dire que ces pays sont privés de culture. Je rappelle que le régime des intermittents, c'est grosso modo 1 milliard d'euros de déficit par an, que c'est un tiers du déficit de l'assurance chômage, et que si on prend l'ensemble des dettes de l'assurance chômage, qui représentent à peu près 10 milliards d'euros, c'est exactement le cumul de 10 ans de déficit du régime des intermittents. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Et il y a des abus, considérables dans ce domaine-là.
Vous pouvez quand même convenir qu'il est difficile de le réformer, puisque vous ne l'avez pas fait vous-même.
Non, on l'a pas fait. On a essayé, Monsieur Ayagon, souvenez-vous, a essayé, et puis il s'est heurté à un mur absolu, très violent d'ailleurs. Les choses deviennent très violentes. Renaud Donnieu de Vabre a été cherché aussi à réformer les choses, a été pris à partie, comme l'était Jean-Jacques Ayagon, de façon physique, de façon extraordinairement
violente. Donc on renonce à réformer ce régime des intermittents?
Non, je pense qu'il faut le réformer. Je pense qu'il faut le mettre en extinction pendant un certain nombre d'années, que les choses soient claires. C'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que c'est une prise de position contre contre la culture. Personne ne prend de position contre la culture. Évidemment qu'il faut développer les politiques culturelles, mais il y a peut-être d'autres moyens que de le faire. En tout cas, on ne peut pas accumuler les déficits de cette façon-là, et on ne peut pas non plus subir les excès de ce régime.
Alors face à ces mouvements sociaux, le Premier ministre Manuel Valls n'a pas hésité, c'était samedi dernier, à dramatiser les enjeux en faisant valoir que la gauche pouvait mourir, message bien sûr adressé à sa majorité, et qu'il n'y avait d'ailleurs pas d'alternative aux réformes et aux choix économiques du gouvernement. Sur ces deux assertions, quel est votre sentiment? On va peut-être commencer par la dramatisation.
On voit que Manuel Valls est dans un exercice là un peu difficile. Il répète d'abord toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il a une posture. Au fond, il a choisi une posture qui est celle d'assumer, grosso modo. Bientôt, il va dire que son gouvernement est très mauvais, mais que c'est comme ça qu'il faudra. Donc, une sorte de posture un peu caricaturale. Il le fait plutôt bien, d'ailleurs, de façon assez martiale. Et il trouve les mots. Simplement, ça convient pas à sa propre majorité. Le problème, c'est pas l'opposition. Ça convient pas à sa propre majorité. Donc, il dramatise les situations pour essayer de consolider sa majorité et pour lui éviter, au fond, des instinct suicidaire. Si cette majorité ne venait pas... Oui, je pense que ça existe. Je pense que si cette majorité ne votait pas le projet de loi de finances rectificative qui arrive à l'Assemblée nationale en commission demain et la semaine prochaine à l'Assemblée, je pense que ça poserait de vraies questions de survie du gouvernement. Car il a impulsé à la fois des énormes augmentations d'impôts et puis des petites baisses ici ou là. Il y a le CICE dans le projet de loi de financement. Enfin, il y a le CICE, il y a des diminutions de cotisations sociales, c'est-à-dire le pacte de responsabilité dans le projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale. Bon, on est un peu au cœur du dispositif. Donc, on voit bien que la gauche est extraordinairement divisée. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, mais vous faites énormément de cadeaux aux entreprises, toujours l'impression qu'on fait des cadeaux aux entreprises, comme si c'était pas une politique pour l'emploi. Et puis un gouvernement qui dit, ok, j'ai fait le contraire pendant 2 ans, et maintenant je me suis aperçu, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé, le prince charmant m'a ouvert les yeux, et maintenant je m'aperçois que je m'étais trompé, donc je change de politique. Une partie de cette gauche ne comprend pas.
La tentation du 49-3, ça serait une bonne idée ou une très mauvaise idée avec une majorité...
C'est pas à moi de le dire. Ouais. C'est vraiment un instrument et un outil à la disposition du gouvernement. Je pense que ce serait extrêmement difficile à avaler pour la majorité de se prendre l'utilisation de cet article 49.3 en pleine figure. D'autant plus que la gauche a toujours critiqué, l'a utilisé d'ailleurs, mais elle a toujours critiqué avec insistance l'utilisation de cet article. Mais on voit que Manuel Valls n'est pas sûr de lui. Aujourd'hui, il fait la politique de M. Hérault. Enfin, il fait la politique de M. Hérault. Et en même temps, il utilise les CICE, etc. C'est la politique de Hérault. Les 50 milliards d'économies qui ne sont pas 50 milliards d'économies du tout, et la Cour des comptes vient de le dire aujourd'hui. Franchement, c'est la politique de Hérault. Sauf qu'il essaie de prendre tout ce qui est bon en disant, regardez, trop d'impôts tue l'impôt. Sauf que c'est eux qui les ont augmentés, les impôts de cette façon-là. Et donc, on voit d'ailleurs M. Hérault, qui est juste en face de lui, qui siège dans le même hémicycle, au fur et à mesure du temps, un peu se crisper, et on peut le comprendre. On a l'impression que M. Hérault a fait le sale boulot et que revient à M. Valls aujourd'hui d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et de dire aux Français, on va baisser vos impôts. Sauf que la réalité n'est pas celle-là. L'augmentation des impôts pour les ménages sera extrêmement forte. Si on oublie la TVA, ce sera de l'ordre de 4 milliards d'euros. Il y a 1 milliard de baisse, ça aurait été 5, ce sera 4. Et ces 4 seront payés par les classes moyennes.
La rentrée septembre, les impôts, ça va être une rentrée difficile.
Ça va être une rentrée très difficile parce que on ne peut pas s'en réjouir. Parce que au fond, on ne sait pas très bien où ça va. Parce que nos concitoyens vont s'apercevoir que quand ils avaient une majoration de pension pour un certain nombre de retraités, quand on a élevé 3 enfants, bah, cette majoration, elle est maintenant fiscalisée, elle ne l'était pas. Quand ils s'apercevront que ce que payent leurs employeurs sur les mutuelles devient un avantage en nature et donc est fiscalisé, c'est de l'ordre de 150 euros d'impôts supplémentaires, etc., etc., etc. Puis vous rajoutez la couche de la TVA, ça vous fait 10 milliards d'euros sur les ménages. 10 milliards d'euros sur les ménages, il y a un moment donné, ça se voit. Et c'est pas parce que vous exonérez des personnes qui auraient dû rentrer dans l'impôt et qui n'y rentrent pas, ou des personnes qui y sont rentrées et qui vont ressortir, ça vous fait quand même 2 ou 3 millions de personnes, vous avez 19 millions ou 18 millions de foyers fiscaux. Et donc il y a bien un moment donné où la plupart des Français, dont les catégories moyennes, vont prendre encore une deuxième lame extrêmement lourde d'imposition.
Didier Loras.
Une autre question qui peut se poser, ça va être la rentrée sociale. Donc on parlait tout à l'heure de la SNCF, des intermittents, c'est potentiellement de conflits durs qui peuvent durer. Vous en imaginez d'autres en septembre. Et est-ce que pour vous, ça parle d'un état de la France qui est avec beaucoup d'inquiétude, qui serait effectivement catastrophique et qui reviendrait en septembre?
Je veux pas jouer aux annonciateurs de mauvaises, ou de catastrophes. Je pense que c'est toujours trop facile. Moi, j'essaie de regarder la situation de mon pays telle qu'elle est. Des crédibilités totales du gouvernement, difficultés dans l'opposition, hein, je ne le cache pas, bien évidemment. Et puis en même temps, un climat social qui devient préoccupant. Préoccupant dans les transports publics, préoccupant dans le monde culturel. On sait que c'est des chambres d'écho extrêmement lourdes. Je pense qu'une étincelle pourrait faire beaucoup de mal. Mais simplement, on ne sait jamais où l'étincelle va s'allumer, on ne sait jamais si elle va s'allumer. Mais il est urgent que le gouvernement reprenne les rênes. C'est-à-dire, est une politique qui soit compréhensible. Qui ne soit pas tout le temps en train de godiller, de zigzaguer, d'aller à droite et à gauche, de faire tout et son contraire.
Les frondeurs du PS aujourd'hui, les soi-disant socialistes, comme dirait Jean-Marie Le Guen, accusent le gouvernement de mener une politique libérale, une politique de droite. Ça vous inspire quel sentiment?
Il n'arrête pas de changer d'avis. Il a changé d'avis sur le fond, sur ce qu'est une entreprise, sur qui crée de l'emploi, sur comment redistribuer de la richesse, sur ce qu'est la fiscalité. Il a changé complètement d'avis sur la finance.
Mais c'est un virage à droite.
Il a aussi changé totalement d'avis sur des sujets. Je prends l'exemple des salariés de personnes physiques, les personnes qui font le ménage, les jardiniers, les personnes que vous employez, les emplois familiaux. C'est des gisements d'emplois très importants. Et le gouvernement a changé radicalement d'avis aujourd'hui. Il a repris une bonne partie des avantages fiscaux et maintenant il redonne ces avantages fiscaux. Monsieur Eckert, quand il était rapporteur général à la commission des finances, il tapait sur les emplois familiaux. Maintenant qu'il est secrétaire d'État au budget, il dit il faut regarder, mon Dieu, il y a beaucoup d'emplois au noir, ça a baissé, je comprends pas. Donc il faut absolument revenir à des réductions d'impôts, ce qui est assez naturel puisque les gens sont employeurs, il est logique qu'ils puissent déduire cela de leur revenu. Donc on est dans une incapacité au fond à comprendre, et quand on comprend pas, on n'investit pas. Quand on comprend pas, on se projette pas vraiment dans l'avenir, on se demande quel coup va se vous taper derrière l'oreille. On vous a déjà tapé un coup, qu'est-ce qui va se passer? Et on voit bien que les anticipations ne se font pas, les comportements des citoyens mais aussi les comportements des acteurs économiques sont extrêmement bridés par cette incapacité à définir au fond une ligne politique cohérente sur la durée. Je dis pas qu'un gouvernement réussit toujours. Chacun a ses échecs. Mais il faut de la durée, il faut de la constance, il faut de la fermeté et il faut de la légitimité politique. Nous n'avons rien de cela aujourd'hui.
Votre sentiment sur la grande réforme territoriale qui sera présentée demain en Conseil des ministres, ça fait partie des efforts du gouvernement pour réaliser des économies.
C'est d'abord la seule réforme structurelle que pouvait annoncer Monsieur Valls, pour une raison bien simple. Personne ne descendra dans la rue pour défendre son conseil général ou son conseil régional. Les autres réformes structurelles.
Les élus peut-être.
Ouais, mais ils sont pas très nombreux, moins nombreux qu'on ne le croit.
Mais c'est nécessaire quand même.
Je dis c'est la seule qu'il pouvait annoncer à partir du moment où il considérait qu'il fallait pas beaucoup de courage. S'il y avait du courage, il aurait travaillé sur l'assurance maladie, qui est un vrai problème. Il aurait travaillé sur l'indemnisation du chômage, sur les prestations sociales. Bon, une fois qu'il décide de faire cette réforme, là encore une fois, c'est beaucoup d'aller-retour et de zigzag. C'est exactement ce qu'il a supprimé en juillet 2012. Exactement ce qu'il a supprimé. Il n'était pas en terre à Delhi, Monsieur Valls. Il était à l'Assemblée nationale et il était ministre du gouvernement qui a supprimé ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Alors, il recrée autre chose. Ouais. Il diminue le nombre de régions. Je suis assez favorable à l'idée qu'il faut diminuer le nombre
22,
de régions.
14, tout le monde est d'accord. Voilà. Les économies.
En même temps, il faut surtout supprimer les départements, car les grands lieux de dépenses sont dans les départements et il faut réformer les missions de service public des collectivités locales. Si vous ne changez que les frontières, ça ne change rien au coût. Vous allez limiter peut-être un tout petit peu
Les 10 milliards d'euros promis avec
mais c'est faux, ça c'est faux, c'est faux, c'est 10 milliards sur des années, et puis c'est faux, il n'y a pas d'économie en attendre immédiatement.
C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve pour la suite juste après les infos. Nous évoquerons l'avenir de l'UMP en pleine refondation.